Puis dans les bureaux du distributeur suisse du film Le Répondeur avec Fabienne Godet, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes là pour nous parler du film, un film qui puise son inspiration dans le livre éponyme de Luc Blainvillain.
Oui, exactement.
Et comment vous arrivez l'idée d'adapter ce livre ?
En fait, c'est mon producteur qui a d'abord lu ce livre. Il a trouvé le pitch super, vraiment. Et il m'a dit, est-ce que tu veux le lire ? J'ai pas de réalisateur pour ce film. Donc je l'ai lu et j'ai tout de suite dit oui, parce que je trouvais que c'était une idée géniale. Et aussi parce que je sentais qu'à l'intérieur du livre, j'allais avoir suffisamment de liberté pour pouvoir y mettre ma patte, en fait, et mon univers. Et donc ça s'est fait hyper vite. Et l'auteur était d'accord pour me laisser libre. C'est-à-dire, il avait vu mes films, il faisait confiance. Et je lui ai dit, tu découvriras le film au moment où il sera fait. Et il a eu cette générosité de me laisser faire.
Carte blanche, c'est généreux, effectivement. Par contre, vous avez écrit le scénario à quatre mains avec
Claire Barry.
Tout à fait. Oui. Et comment ça a fonctionné ? Est-ce que c'était une émulation, un échange constant ? Comment avez-vous travaillé ?
Quand on co-écrit, que ce soit avec Claire ou avec d'autres, moi j'écris tout le temps en fait. Hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'abord la première version, je l'ai fait dire à Claire. Claire l'a reprise, elle y a mis sa patte, on s'est vu, j'y ai remis ma patte, et en fait ça a vraiment été un jeu de ping-pong permanent en fait. Et ça a été extrêmement agréable en fait de travailler avec Claire. On se voyait une, des fois deux fois par semaine. Mais ouais, c'est vraiment du ping-pong, mais ça fonctionne de la même manière pour quand je monte le film avec un monteur qui a aussi travaillé d'ailleurs avec des réalisateurs suisses. C'est que du ping-pong. Et je trouve que là, sur ce film, on a vraiment on a fait un travail collectif, que ce soit à l'écriture, au montage, mais aussi sur le tournage. Moi, j'aime bien laisser... on est dans une comédie, donc c'est quand même assez millimétré, on ne peut pas non plus trop improviser. Mais en même temps, même dans ce schéma narratif qui est très structuré, je laisse toujours la possibilité à un comédien de, d'inventer une petite phrase, un petit moment à lui.
Donc Fabien, vous mentionnez justement le registre comique qui n'est pas forcément habituel pour vous, donc qui va vraiment à la fois étonner et séduire le public. Ça fait songer par moments avec les situations de quiproquo, un peu les rebondissements au marivaudage. Oui. Ça a dû vous plaire ?
Oui, ça c'était hyper jouissif. Mais dès le livre, dès la lecture du livre, ça rebondit, on ne va pas forcément... On pense que ça va aller dans un sens, puis ça va dans l'autre... Il n'y a pas de temps mort, donc c'est vraiment que c'est hyper, hyper jouissif. Le travail qu'on a dû faire quand même avec Claire, c'est que justement c'était tellement du marivaudage que parfois il fallait qu'on le mette en cinéma. Autant en théâtre, on aurait pu garder ce style-là. Là, il fallait quand même que j'en fasse un film et que j'en fasse un film de cinéma. Donc on a quand même souvent gommé parfois des petits pics ou des trucs qui je trouvais étaient trop, justement, too much. Par rapport à un film. Après, c'était mon choix. Je pense qu'un autre réalisateur aurait peut-être justement poussé ses curseurs, comme on peut voir parfois dans certaines comédies françaises, mais ça n'aurait pas été mon style, en fait.
Fabienne, vous mentionnez que vous avez peut-être gommé certains pics, mais en même temps, vous avez peut-être gommé au niveau du verbe, mais pas au niveau visuel. Au niveau visuel, il y a beaucoup de rebondissements, de côté facétieux.
Oui.
Qui sont travaillés par la gestuelle ou par les regards, l'attitude.
Oui. Disons que j'ai gardé tout ça, mais j'ai pas d'exemple qui me vient, mais je sais qu'à certains moments, quand même, fallait qu'on trouve avec Claire une autre manière d'amener les choses pour que ça soit plus fluide. C'est dans ce sens-là que je dis qu'on gommait parfois certains pics, mais on a vraiment gardé l'enchaînement, en fait. L'enchaînement... et puis on a inventé aussi, par exemple dans le livre, le Baptiste, il fait je ne sais plus quelle production, je crois qu'il écrit des petits machins, des petites newsletters, c'est pas très visuel. Là, on a eu l'idée avec Claire de faire du télémarketing, parce que c'est quelque chose qu'on a tous un peu fait quand on était étudiant pour gagner notre vie. Et puis ça résonnait avec l'histoire du téléphone. Donc voilà, c'était d'aller chercher autre chose justement qui soit du pur cinéma.
Et qui permettent une mise en abîme aussi dans l'imitation, par exemple.
Voilà. Et par exemple, dans le livre, il n'y a pas d'imitation chantée. Et il y a très peu de spectacles. Et moi, tout de suite, je me suis dit, je veux, parce que j'adore ça, j'adore les imitations, et chanter et parler. Et je voulais, un, qu'il y ait du spectacle, et que, deux, on soit sur des imitations chantées. Je pense à l'imitation de Johnny Hallyday, mais même à la fin, Moonlight in Vermont, où la performance de Salif, elle est extraordinaire, en fait, en termes d'imitation. Et j'ai perdu la question.
Fabienne, par rapport, j'avais retenu que dans un précédent film, vous disiez « Je n'écris jamais pour des comédiens et des comédiennes. »
C'est vrai. «
Je garde l'esprit libre. » Est-ce que là, vous avez comme songé à Denis Podalydès et à Salif Cissé ?
Pas à l'écriture. Pas à l'écriture. Denis Podalydès, en fait, l'écriture, elle a duré un an. Et quand je faisais des pauses, j'allais voir sur les sites d'agence et je regardais des photos. Et donc, comme les personnages prenaient vie, commençaient à s'incarner, un jour, je suis tombée sur la photo de Denis Podalydès et je me suis dit, mais c'est lui, en fait, mon personnage.
Pierre Chauzène,
ouais. Et parce que le personnage de Pierre Chauzène, c'est à la fois quelqu'un, je le définis un peu comme un misanthrope bienveillant. Comme tout misanthrope, c'est quelqu'un forcément qui a des blessures, qui est au final qu'un homme plus blessé qu'autre chose, même si, entre guillemets, il a réussi, il est quand même toujours resté un enfant, notamment auprès de son père, et cette demande comme ça de reconnaissance qu'il a. Donc Denis, ça a été une évidence, et par chance, il a lu, en 15 jours, il m'a dit oui, sans même me rencontrer, il voulait absolument le faire, donc ça c'était génial. La deuxième évidence pour moi, c'était Horatica. Puis je trouvais que le couple Horatica-Denis Podalydès, je trouve que les deux, ils ont beaucoup de charisme, beaucoup de présence. Ils sont assez singuliers l'un et l'autre.
Ils fonctionnent bien à l'écran.
Et ils fonctionnent super bien à l'écran. On ne les avait pas vus jusqu'à maintenant ensemble. Et pour ce qui est des jeunes trentenaires, je dirais, de Clara Brotteau, Manon et évidemment Salif Cissé.
Baptiste,
j'ai fait appel à un directeur de casting qui m'a proposé plusieurs jeunes. Et effectivement, quand j'ai vu Salif Cissé, pour moi, il était au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas seulement un très grand comédien, c'est quelqu'un qui a fait le conservatoire. Je savais que c'était forcément un gros, gros bosseur. Il avait fait du théâtre, donc il sait vraiment ce que c'est que le travail d'acteur. Mais je trouvais qu'il avait surtout un charisme de dingue. Et il fallait que Baptiste, il fallait tout de suite qu'on aime Baptiste, parce que au départ, ce qu'il fait, on pourrait se dire, ouais, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à Pierre Chauzène, il lui dit c'est un peu pervers, mais en fait lui, il va en faire quelque chose de beau. Et un peu à la mode, des fois on nous cite Amélie Poulain, c'est vrai qu'il va permettre à chaque personnage de se révéler, y compris, il fait le bien partout en fait, et c'est vrai qu'on est à une époque où ça fait du bien, quoi, des gens comme ça. Parce qu'il permet à Chauzène de se réinventer, il permet à Elsa de développer son talent de peintre, il permet aussi à ses collaborateurs de théâtre d'un seul coup, il sauve le théâtre. Voilà, c'est un conte, quelque chose de l'ordre d'un conte, en tout cas moderne.
Fabienne, vous mentionnez Salif Cissé, qui a à la fois ce charisme, cette présence à l'écran, cette présence physique, mais que vous réussissez à mettre dans une situation où il est exhibé, montré, puisqu'il pose pour cet artiste, mais en même temps, il reste très pudique, très... il y a un mystère qui est conservé.
Ben oui, je pense que c'est ça qui nous touche. Mmh. Et moi, j'aime beaucoup, notamment les scènes, justement, où on se dégage de Salif beaucoup de tendresse et beaucoup de sensibilité. Derrière ce corps, comme ça, et cette... présence physique, on sent énormément de sensibilité, voire de fragilité. Et moi, j'adore les séances où il est en écoute de la vie de Pierre Chauzène. Parce que ça a l'air de rien, mais pour un comédien, savoir vraiment écouter, c'est la chose la plus difficile. C'est la chose... Souvent, les comédiens sont déjà avec une longueur d'avance sur ce qui va être dit. Là, Salif, il est véritablement en empathie totale avec Pierre Chausen. Donc il y a à la fois cette très grande douceur et en même temps, un peu comme certains comédiens, on les met sur scène et pouf, d'un seul coup, il y a quelqu'un d'autre qui se révèle. Donc oui, Salif, il a toutes ces qualités-là, en fait.
Alors l'art de savoir écouter et d'être dans le moment présent, c'est ce que disait de vous, Salif, tout à l'heure en entretien.
Oui.
Vous savez écouter vos comédiens et comédiennes.
Oui, oui, oui.
Et les révéler.
Oui, j'aime bien parce que là, pour le coup, on est quand même... voilà, le cinéma, c'est un art collectif. Et donc, j'ai des collaborateurs artistiques, que ce soit mes comédiens ou mes techniciens, ou je pense aux imitateurs qu'ont coaché Salif, que ce soit Michael Gregorio, Fabian Le Castel ou Eclipse. C'est des artistes. Et l'idée, à un moment donné, je me dis que 5 cerveaux plutôt qu'un, c'est... Voilà, ça ne peut être que bénéfique, surtout si moi je me considère un peu comme un chef d'orchestre, hein. Mais si j'ai pas de bon instrumentaliste ou instrumentiste, oui, je fais rien. Donc si le violon est pas bon, et ben le violon est pas bon. J'ai beau être un super chef d'orchestre, ça marche pas. Et là, moi, de plus en plus, en fait, là c'est mon 6e film. Au début, quand j'ai commencé, j'avais l'impression qu'il fallait que je sache tout. Je me disais, là, le metteur en scène, il doit tout savoir.
Tout maîtriser.
Et en fait, avec la maturité, je me rends compte que non, en fait. Mon rôle, c'est de donner la direction, de dire voilà où on va aller, de savoir c'est quoi le cœur de la scène, et après de laisser faire. C'est-à-dire que je les ai choisis. Et alors, je ne sais plus quel metteur en scène, je crois que c'est Jean Renoir, mais j'en suis pas sûre, disait que la direction artistique, c'est 60 ou au moins 50% du choix de l'acteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai choisi un acteur, je lui fais confiance. Je sais pourquoi je l'ai choisi et j'attends de lui aussi qu'il soit en proposition. Ce n'est pas juste un pantin, ce n'est pas une marionnette. Et puis sur un plateau, on est deux à connaître très bien le rôle, c'est lui et moi. Donc forcément, on est dans cet échange permanent en fait, de propositions. Avec ce que je disais tout à l'heure, on est dans une comédie, donc on ne peut pas improviser dans le film, par exemple, Nos vies formidables. On était beaucoup plus dans l'impro parce que le sujet et le projet avaient été construits autour de ça. Là, ce n'est pas le cas.
Alors, si je comprends bien vos propos, Fabienne, vous laissez place à l'improvisation quand c'est possible,
oui. Mais
aussi à l'échange avec les comédiens et comédiennes.
Ah oui, à l'échange avec les comédiens et comédiennes.
C'est une émulation constante.
Oui, c'est une émulation... Je prends par exemple le cas d'une scène dont Salif a peut-être parlé, mais où à un moment donné, quand Baptiste revient vers Chausen en disant j'ai la voix, et il est en train de lui lire son propre livre avec sa propre voix, Chausen à ce moment-là n'est pas content. Et ce que je faisais tous les matins, c'est que je demandais à tout le monde de sortir, et je disais voilà, on va prendre dans le temps qu'on a, parce qu'on ne peut pas en prendre plus de 3 heures. Donc on prenait 3 quarts d'heure, des fois une demi-heure, des fois un peu plus. Comment on va jouer la scène? Comment on va se déplacer? Et à un moment donné, Denis et Salif ont proposé qu'ils prennent le téléphone et qu'ils aillent s'asseoir en fait au bureau. Et je crois que c'est Denis qui a proposé. Et je me suis dit, mais c'est génial comme idée. C'est-à-dire que quand vous préparez, quand on écrit, en fait, on imagine les séquences, tout va bien. Puis après, on a le décor, mais le décor, on l'a le jour du tournage. Hein. Donc, c'est comment on va se réapproprier tous les trois ce décor. Et moi, quand j'ai une idée qui est proposée par un comédien et que je trouve géniale, je me dis super, quoi. J'ai des vrais bons comédiens qui sont là, qui servent le propos. Donc, forcément, je prends. Voilà. Après, des fois, on me propose une idée, je laisse. C'est très... c'est variable. Mais oui, j'aime bien. J'aime bien ce temps-là. Moi, j'adore les comédiens, en fait.
C'est une qualité de savoir les écouter et que vous avez. Par rapport à mise en abîme, par rapport au répondeur au téléphone, quelle est votre relation avec cet engin qui est omniprésent dans notre société?
Je ne suis pas trop dépendante. C'est peut-être
Bravo.
Pour ça. Oui, non, c'est parce que c'est peut-être pour ça que ça me choque. Après, là, par exemple, j'étais avec un jeune de l'équipe. Effectivement, je ne maîtrise pas bien Insta. Je ne suis pas trop sur les réseaux. Le seul truc que je connais à peu près, c'est Facebook. C'est ma génération. TikTok, j'ai pas. Et Insta et les autres, j'ai Insta, on l'a installé. Mais je sais pas bien comment ça marche. Donc souvent, ce sont mes fils ou c'est Salif qui me dit, viens, je vais te mettre à jour tes trucs.
Pour le répondeur, pour la promotion.
Pour la promotion. Mais non, j'ai cette chance de pas être... vous voyez, par exemple, là, bah, je sais pas où il est. C'est dans ma poche. Non, je l'ai pas... Après, j'ai une... Je suis un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que c'est vrai que ça m'arrive de l'oublier. Quand je vais me promener, je le prends pas. Enfin, voilà, j'ai... Et je me sens pas perdue quand je l'ai pas. Mais comme c'est quand même le moyen aujourd'hui de communiquer, certainement j'ai une forme d'addiction aussi, un peu. Mais c'est vrai que je fais pas partie des gens, par exemple dans le métro, qui sont collés au téléphone. Ça, moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est vous êtes dans une rame de métro et vous avez des monades. Voilà, donc des petites monades, des petits gens complètement repliés sur eux-mêmes.
Qui ne communiquent plus entre eux.
Qui ne communiquent plus, mais même plus au niveau du regard, quoi. Et puis d'un coup, il y a un intrus qui sort un livre. Et là, on se dit, waouh, alors lui, il vient d'où? Des années 80. Et puis, moi, souvent, je ne lis même pas. J'aime bien, moi, en fait, j'aime bien regarder. Donc, et aux terrasses, des fois, je prends mon portable. Et puis, hop, j'aime bien. En fait, moi, comme je suis. Ma formation est.
Psychologue.
Je pense que j'ai gardé ce truc de...
D'observer l'humanité.
Ouais, d'observer les gens. J'aime bien. Je regarde les costumes, je regarde la vie. Ce qui m'attriste le plus, c'est de voir un couple à table dans un resto. Ils sont chacun avec leur portable. Ce que je crois, c'est que les gens ne se rendent pas compte que ça les déconnecte d'eux-mêmes. Parce qu'à aucun moment, ils ont ce temps entre eux-mêmes, quoi. Je remplis. Je ne sais plus bien ce que je ressens. Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que je ne m'ennuie pas? Et je trouve surtout que ça déconnecte avec des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces temps, justement, où on est à la table, où il y a du silence, puis il y a peut-être quelque chose qui va sortir, émerger, en fait, de ça. Non ? Hop. Et moi, je pense que ça a un vrai impact sur les relations des gens, qu'on ne mesure pas. Quand on est addict à la drogue ou à l'alcool, ça se voit. Et c'est-à-dire que les dégâts sont physiques, sont visibles sur les relations avec les autres. Je pense que le portable... a une vraie, un vrai impact qui n'est pas positif, enfin qui n'est pas que positif. Je ne veux pas noircir le tableau non plus. Ouais.
Dont on n'a pas encore pris l'ampleur.
Oui.
Fabienne, vous avez mentionné votre ancienne vie, donc je peux en parler. Oui. Vous avez fait des études de psychologue, vous avez travaillé dans le domaine médical. J'imagine que la psychologie vous amène aussi à nourrir votre travail en tant que scénariste et réalisatrice.
Oui.
Fait de savoir observer, comme à la Daumier, de faire des observations, des portraits de l'humanité.
Oui, ça me sert. Après, c'est-à-dire que je pense que chez moi, c'est presque une seconde nature. Je ne suis pas là à me dire... je sais ce qui est cohérent, ce qui ne l'est pas. Moi, en plus, j'ai une formation de psychosociologue. Donc, c'est vrai qu'un sociologue sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est Pierre Bourdieu, quand on lit ses livres comme « Pratique de la distinction », voilà, rien que ça, de repérer comment les gens parlent, de... Les dialogues, on ne parle pas de la même manière quand on a 20 ans que quand on en a 40.
Ces expériences en immersion, comme en Kabylie. Ils étaient en immersion au sein des sociétés, comme en Kabylie. Ils se mettaient en immersion, ils vivaient avec les gens.
Oui. Ben moi, par exemple, alors je ne l'ai pas fait ça. Je l'ai fait un peu avec Michael, mais il y a des films où je suis allée, pour faire nos vies formidables, je suis allée dans la communauté thérapeutique pour vivre avec les gens. Quand j'ai fait mon premier long, je suis restée 6 mois à la CRIM, etc., etc. J'adore ça. Quand je fais le documentaire sur Pietra, Gala, je passe des heures dans son studio, assise dans un coin, je les observe danser, en me disant, tiens, comment je vais filmer, etc., etc. Oui, j'adore ça. Je trouve que ça ouvre, en fait, ça ouvre le regard, ça ouvre les yeux.
Des perspectives.
Oui, ça ouvre des perspectives. Mais pour faire ça, effectivement, il ne faut pas être collé sur son portable. C'est-à-dire que... Il faut être à l'écoute. Moi, il y a des dialogues. Des fois, je suis dans un café, je note la phrase. Parce que c'est quelque chose que je ne peux pas inventer. Et je trouve, d'un seul coup, que c'est génial, quoi.
À propos de... Vous avez dit que vous êtes fidèle à votre équipe, que ce soit au niveau du montage, au niveau de vos techniciens. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fois du travail sur la photographie et du travail sur le montage pour ce film, Le Répondeur?
Alors, sur la photographie... je ne pouvais pas avoir les gens avec qui je travaille d'habitude. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours compliqué parce que les gens qui me connaissent savent ma manière de travailler. Éric Blanquer, qui a fait l'image, j'ai vraiment essayé de lui expliquer que je voulais Par exemple, pas de lumière intérieure, je voulais que tout vienne de l'extérieur, je voulais que les comédiens soient complètement libres justement d'inventer dans l'espace et tout. Et il a parfaitement compris, enfin voilà mes exigences. Ça prenait parfois un peu plus de temps parce que voilà, il n'est pas habitué, en plus il vient de la pub, donc moi j'aime bien improviser. Quand j'arrive sur un décor, des fois je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Justement, il y a ce temps avec les comédiens, puis à un moment donné je me dis, on va plutôt filmer comme ça, comme ça. Lui, il était plutôt habitué à des choses un peu storyboardées. Donc voilà, il y a eu un temps d'habitude.
D'adaptation.
Oui, d'adaptation, tout ça. Avec Florent par contre, Florent Mangeau, il a monté tous mes films. Donc pour moi, alors on est devenus hyper proches, c'est vraiment un ami, c'est un frère. Et ça va très vite. C'est-à-dire que là, quand on parlait de ping-pong avec Claire, avec Florent, c'est du ping-pong permanent. Et ce qui est bien, c'est qu'on est centré sur le contenu, le travail, jamais sur la relation. Donc ça veut dire qu'on peut tout se dire. On peut se dire, oh non, là c'est nul ce que tu proposes, là c'est nul ce que je propose. Et cette honnêteté en fait qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre, elle nous fait énormément gagner de temps, quoi. Et comme on a une admiration, pour moi, mon monteur, c'est vraiment un artiste, je le considère comme un artiste. Voilà, c'est génial. Lui, il ne se considère pas comme un artiste, mais moi, je le considère comme un artiste. Je trouve qu'il a des idées géniales. Donc oui, le fait d'avoir cette complicité depuis. Le seul film qu'il n'a pas monté, c'était mon premier long. Mais à partir du moment où on s'est rencontrés et où on a travaillé ensemble, voilà, puis on rigole bien, en fait. Voilà.
Il y a une connaissance réciproque qui permet une anticipation dans le travail, j'imagine.
Oui, puis vraiment de simplicité, quoi. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on aime chacun, on sait en même temps ce qu'on n'est pas et qu'on va aller chercher chez l'autre. On n'a pas, par exemple, avec Florent, le même rythme. Florent, c'est quelqu'un de beaucoup plus speed que moi, ce qui fait que des fois, il va avoir tendance à accélérer le montage. Et moi, je lui dis, non, ça va trop vite, j'ai envie de rester un peu plus longtemps sur tel visage. Et on arrive toujours à trouver à un moment donné un équilibre entre ma lenteur et son côté speed pour arriver à un équilibre qui nous satisfait tous les deux, en fait.
Et c'est lui qui connaît un peu les Suisses,
qui a travaillé. C'est lui, voilà, et qui a travaillé. Alors, je ne sais plus son nom, son prénom, c'est Peter. Il a monté un film qui se déroule sur la frontière mexicaine. Et le nom, il vient...
C'est un documentaire ?
Oui, il vient ce soir et il s'appelle Peter quelque chose. Il vient ce soir, en fait, avec ses filles, voir le film.
C'est peut-être Dreamers, le film ?
Peut-être. De Peter, comment
De Peter, je vais chercher le nom. Voilà. C'est pas bien, j'oublie aussi. Ouais. Pour revenir à votre façon de travailler, votre film, là, vous accompagnez la sortie du répondeur. Est-ce que vous avez besoin d'un temps de répit entre chaque film ou est-ce que vous êtes déjà en train de chercher des idées, d'écrire un peu ?
Ça dépend, en fait. Ça dépend. Là, j'ai possiblement plusieurs histoires. J'ai commencé à travailler sur un projet. Mais je dirais que je suis dans une phase qu'on appelle rêveur, la phase créative rêveur, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément encore complètement choisi là où j'allais aller. Et à un moment donné, je me disais, je vais emmener du travail, la tournée, tout ça, puis en fait, c'est impossible. C'est-à-dire que je suis tellement absorbée en fait, par la sortie de celui-là. Et l'air de rien, une tournée, ça n'a pas l'air comme ça, mais ce n'est pas la mine, hein. On est d'accord. Mais c'est très fatigant parce que...
C'est énergivore.
Ouais, et c'est une énergie, en fait, contrairement à un plateau de tournage, on fonctionne sur l'adrénaline en permanence. Tout va vite, il faut être efficace, etc. Là, la tournée, on est un peu dans les hôtels, un peu dans les trains. D'un seul coup, on nous dit, vous avez une heure ou deux, mais pas suffisant, par exemple, pour travailler. Donc moi, ce que je fais, c'est que je profite, je vais me balader. Demain matin, là, avec Salif, on va aller se balader dans Genève.
Manger du chocolat suisse.
Voilà, on va profiter. Mais c'est vrai que de là à se mettre dans une chambre d'hôtel à travailler avec son ordi, moi j'ai besoin de de concentration et puis c'est vrai qu'on est on reçoit des messages donc du coup non j'ai du coup là j'ai rien emmené par exemple à part un livre si je lis beaucoup voilà
donc vous êtes l'OVNI, l'extraterrestre de notre société. Si on voit une dame qui est en train de pencher dans son livre, c'est vous. Fabienne Godet.
Oui.
Vous avez parlé d'adrénaline, de la promotion, de la tournée pour parler de votre film, le présenter au public. Le public a été au rendez-vous à l'Alpe d'Huez,
oui.
Prix du public,
oui.
Pour le répondeur.
Oui.
Comment l'avez-vous vécu, le festival, comme ce prix?
Ah ben là, c'était dingue.
Consécration.
Ah ouais, non, c'était dingue. Moi, c'était la première fois que j'allais à ce festival, parce que c'est ma première comédie. Je ne savais pas comment ça se passait. J'ai trouvé déjà l'ambiance super. C'est-à-dire, pas du tout guindé, super. Tout le monde est accessible, on se parle, on mange
convivial.
Ensemble. Hyper convivial. En plus, avec un paysage magnifique, quoi, de neige et de montagne. Et quand on est retourné... Déjà, il y a eu le premier temps, qui est la première projection. Et là, on a été super surpris parce que on a eu un public standing ovation. Je ne peux pas vous dire le temps que ça a duré, mais suffisamment longtemps pour moi. Et à un moment donné, au début, les gens applaudissaient, puis à un moment donné, ils se sont tous levés. Et c'était genre, moi je ne sais pas, je ne sais pas combien fait la salle, mais j'ai l'impression d'avoir peut-être 1000, 2000 personnes, j'en sais rien en fait. C'était énorme. Et là, j'ai dit à Salif, oh là là, Salif, faut qu'on se lève. Donc, quand on s'est levé, c'était encore plus. Et ce qui était fou, c'est que les gens, en fait, devant nous, ils étaient émus. Certains avaient même carrément les larmes aux yeux. Et là, je me disais, mais je disais à Salif, mais Salif, on a fait une comédie quand même, c'est pas possible. Et c'est là où on a compris qu'en fait, au fur et à mesure, les gens nous disaient, non, mais le film, il est vachement émouvant. Et alors que moi, je me disais, bah non, mais j'ai fait une comédie. Et en fait, le film, il est les deux, mais sauf que je n'ai plus ce recul. Moi, le film, je l'ai vu 100 fois. Du coup, je sais à peu près où les gens rient, mais j'étais vraiment, vraiment surprise de l'émotion, en fait. Et ce qui est fou, c'est qu'il y avait l'attaché de presse qui était à côté de moi. Il y a une dame qui vient nous voir, qui vient me voir, et qui me dit, c'est le plus beau film que j'ai vu. Et comme nous, on était c'était le premier film de la sélection, je dis à cette dame, bah, attendez, parce que il y a 9 autres films qui vont passer. Et là, elle me répond, et l'attachée de presse à côté de moi était scotchée. Elle dit, non, mais c'est le plus beau film que j'ai vu de ma vie. L'attachée de presse, elle m'a dit, ah bah ça, je le note, parce que franchement... Et non, non, donc le public était vraiment... Mais c'était impressionnant. Et après, quand on nous a appelés pour nous dire, bah, vous avez le prix du public... forcément, c'est hyper émouvant, quoi. C'est-à-dire que les sélectionneurs nous ont dit qu'on avait obtenu 98,8. Ils disent, on n'a jamais vu ça. Mais on était étonnés, en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'on est comme des gosses, parce que moi, comme j'ai jamais vécu ça, j'étais étonnée, en fait, de l'émotion. Je ne sais pas si Salif vous a raconté, mais le dimanche avant de partir... On va pour manger, grignoter un truc dans la rue, et on entend des applaudissements. Et Salif, il se retourne, puis il dit, je crois que c'est pour nous, en fait. Et les gens nous applaudissaient dans la rue. Donc, tous ces trucs que moi, j'ai jamais vécu, j'étais comme une gosse, à me dire, mais c'est génial, mais c'est incroyable, ce truc. Et après, quand on a eu le prix du public à Mons, pareil, on a eu le coup de cœur des exploitants de Bretagne. Là, on se disait, mais il se passe un truc sur ce film, quoi, c'est incroyable. En fait, ce que les gens nous disent, c'est que, par-delà la comédie, ils disent, le film, les mots qui reviennent souvent, c'est le film, il est touchant,
sensible,
intelligent, sincère, et on en a besoin. Ça nous fait du bien, en fait. Donc voilà, bah, c'est génial, ça.
Alors, Fabienne, vous avez vécu l'adrénaline des rockstars, où le public demande des rappels, en fait. Là, vous connaissez ça maintenant. Le premier concerné, c'est celui qui a écrit le livre,
ouais.
Blanvillain. Est-ce qu'il a vu le film,
oui, oui.
Et quelle est son appréciation?
Il a adoré. Bah, déjà, je l'avais appelé en lui disant, voilà le casting. Il m'a dit, super. Il m'a dit, vraiment, super casting. Ensuite, il est venu sur le tournage, une fois, un jour, où il y avait notamment les scènes entre Denis Podalydès et Salif. Et là, il était super content. Il était comme un gosse parce qu'il ne savait pas, en fait, comment se passait un tournage. Donc, il est venu un peu en observateur. Et puis après, on l'a invité, évidemment, à l'avant-première. Et pas l'avant-première, à la projection équipe. Et pareil, il m'a dit, franchement, c'est super. C'est-à-dire que tous les... En fait, comme moi, je l'avais vu une fois quand même au café... Je lui avais dit, tu sais, je vais enlever pas mal de choses. Mon choix artistique, c'est de creuser le lien entre Chosen et Baptiste. Donc par rapport au livre, j'ai beaucoup augmenté Chosen, qui je trouvais dans le livre manquait un peu d'épaisseur. Je lui ai donné l'épaisseur. Ça veut dire donc faire des choix de...
Élaguer un peu.
Élaguer. Non, il était super content, il est super fier.
Oui, ouais, puis vous a laissé vraiment liberté complète. Pour...
Oui.
Voilà, donc c'était aussi une relation de respect réciproque.
Oui, et puis je pense que on fonctionne tous les deux un peu pareil, c'est-à-dire que son livre existe, le film existe, c'est comme c'est dit dans le film, c'est deux objets différents, et l'un n'invalide pas l'autre, ou l'un ne valide pas l'autre. Enfin, voilà, c'est deux expériences différentes. Si les gens lisent le livre, bah, voilà, ils retrouveront la même histoire, traité de manière différente, et puis le fait par exemple que j'ai ajouté des voix chantées, il a trouvé ça super. C'est plus cinématographique. Et puis j'adore la variété française, j'adore la chanson. C'est un film qui est très musical et qui convoque aussi tous les arts. Il y a la peinture, il y a la musique, l'écriture,
le théâtre.
Donc je trouve ça super, quoi, que tout ça, ça soit convoqué dans un même film sans que ça soit lourdingue non plus, quoi, en fait.
Puisque vous mentionnez la musique, on peut en parler.
Oui, alors la musique, elle a été composée par Éric Neveu. Au départ, quand on a monté, on n'avait pas de musique. Et donc, on a mis du clavecin. Et Rameau, et on savait que ça bougerait, parce qu'au bout d'un moment, le Rameau, on n'en pouvait plus. Mais en même temps, on aimait beaucoup cette idée-là du clavecin, parce que, c'était pas une musique de comédie classique. Ça nous permettait une espèce de distance, un peu d'humour aussi. Donc ça, je trouvais ça très beau. Et du coup, j'ai demandé à Éric Neveu de garder quand même cet esprit-là. Et donc, à certains moments, on a du clavecin. Ou quand on ne l'a pas gardé, on l'a parfois en fond musical. Et ce qu'on a... ça nous a demandé beaucoup de temps, hein, de trouver vraiment la musique avec Éric. Donc on travaillait, hop, il me faisait écouter, on retravaillait, et ainsi de suite. Ce que je trouve, c'est que la musique, elle est hyper cohérente par rapport au film, parce qu'on est dans quelque chose qui est baroque, jazz. Le morceau de la fin, par exemple, on a laissé... je savais que ça allait être la musique de générique. On est avec des gens qui font du jazz et on leur dit, bah, allez-y, improvisez. C'est ce que fait Baptiste pendant tout le film. C'est-à-dire que la musique, elle est hyper cohérente en termes d'impro par rapport au personnage de Baptiste. En fait, c'est marrant de voir comment toutes les choses se sont mises en place vraiment de manière progressive. Par exemple, sur le tableau, sans en dire trop, en fait, on a Salif qui pose pour Elsa. Et plus ça allait, on a vraiment... Moi, j'ai travaillé avec les deux amis qui sont peintres, qui ont fait les tableaux. Et d'abord, je voulais que les tableaux soient pas des petits tableaux de petites filles sympathiques et tout. Je voulais quelque chose de bien
costaud, consistant.
Bien consistant, affirmé et tout. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a été vers du figuratif, vers de l'abstrait, qui est plus mon style, et la déconstruction. Et je trouve que...
Presque de l'art brut.
Ouais, et l'air de rien, c'est assez beau, parce que par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui, d'actualité, sur le féminin, le masculin, le genre, d'aller spontanément vers la déconstruction, en fait, ça prend tout son sens. Et la musique, c'est pareil, c'est-à-dire que au début, on a commencé à composer gnagnin, puis après, on s'est dit non, ça va pas. Et finir à la fin, le morceau est très très écrit. Puis à un moment donné, quand on a dit à Eric, on a proposé aux musiciens, voilà la partition, mais à un moment donné, on va vous demander de surfer là-dessus et d'improviser. Ils ont improvisé, ils s'en sont donné, évidemment, comme vous pensez, à cœur joie. Ouais, c'est hyper cohérent, quoi. C'est marrant de voir comment la cohérence se met en place tranquillement, d'étape en étape, en fait, de prépa, de post-prod, etc., etc.
Telles des pièces d'un Pulse, qui est vraiment succulent et savoureux à la fin. On doit malheureusement vous quitter, Fabienne. C'était une incursion dans la comédie qui ne vous était pas coutumière. Ça vous a vraiment réussi avec la réaction du public, les prix. Vous pensiez revenir ?
Je ne sais pas. Franchement, non, je
on
sais
verra.
pas. Oui, c'est ça, on verra. J'ai pas encore choisi ce que j'allais faire, donc Inch'Allah.
Inch'Allah, et bon succès pour le répondeur. Et ce soir en Romandie pour la présentation.
Oui.
Bon succès, Fabienne.
Merci.